Personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, et qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, et personne ne sait qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est dans Saint Luc au chapitre 10. Le Fils a voulu nous révéler qui est Dieu. C'est la révélation, et nous connaissons la révélation, nous croyons la révélation par la foi. Alors je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que sont ces trois vertus en expliquant les actes de foi, d'espérance et de charité. Il faut les dire tous les matins. Je vous invite vraiment dans votre prière du matin à dire les actes de foi, d'espérance et de charité. C'est dès le matin vivifier ces trois vertus, les mettre en route. Ce sont une prière, bien sûr, mais ce sont des actes. On met en marche la vertu par son action, par son acte. Non. La foi, c'est « Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que nous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper ni nous tromper. » Donc je crois fermement, la fermeté, simplement une qualité de la foi. Je crois, alors croire, qu'est-ce que ça veut dire? Préciser un petit peu aujourd'hui où la notion de vérité étant édulcorée, incomprise, il faut expliquer un peu croire toutes les vérités. On croit, la foi, donc c'est croire des vérités enseignées par quelqu'un, bon, révélées par Jésus-Christ et enseignées par l'Église. Bon, de toute façon, ça vient de quelqu'un d'autre. Donc croire, qu'est-ce que c'est? C'est tenir pour vrai, être certain que c'est vrai, alors que j'en ai aucune preuve, parce que je ne l'ai pas vu moi-même. Un tel m'a dit, je le crois, je pense qu'il dit vrai. Donc, c'est tenir pour vrai ce qu'un autre nous dit, mais que nous-mêmes, nous n'avons pas vu ou nous n'avons pas démontré. Alors, tenir pour vrai, alors qu'est-ce que la vérité? Et surtout, dans toutes les discussions que nous pouvons avoir, je pense que c'est la même chose pour vous, on revient toujours sans cesse à cela, oui, c'est votre opinion. Moi, j'ai la mienne. Vous pensez comme ça? Oui, mais moi, je pense autrement. Tout le temps, espèce d'indifférence à l'égard de la vérité. L'opinion à la place de la vérité, c'est la mort de l'intelligence. Attention, c'est grave. La mort de l'intelligence de ne pas avoir la vérité. Alors, qu'est-ce que la vérité? Eh bien, c'est penser ou dire. Je vais donner un exemple. C'est penser et dire une chose comme elle est. La chose est comme ça, ben je la pense et je la dis comme elle est. Autrement dit, mon esprit se conforme à la chose elle-même, à une ressemblance de la chose en lui. Ce que je pense et ce que je dis, ben c'est bien comme la chose elle est. Je vous prends un exemple tout simple. La voiture de papa est rouge. C'est vrai si effectivement la voiture papa est peinte en rouge. Mais c'est faux si elle est peinte d'une autre couleur, parce qu'alors je vais penser et dire la chose d'une manière, je vais penser et dire d'une manière autre que la chose elle-même. Je vais penser et dire d'une manière différente de la réalité, de la chose telle qu'elle est. Et alors je suis dans le faux. Vous voyez, c'est vraiment une réplique de la chose dans mon esprit. Mon esprit est pareil que la chose. La vérité, c'est une humilité parce que je dois prendre la chose telle qu'elle est. Je n'ai pas à l'inventer, je n'ai pas à la faire. Il faut que je la prenne comme elle est. Donc, je suis obligé de m'y soumettre. La vérité, c'est l'humilité. Il faut être humble pour prendre les choses comme elles sont et non pas comme nous voudrions qu'elles soient. Refaire le monde à ses désirs. Bien sûr. Non, il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Et dire par moi-même certaines vérités. Quand je dis 10 est plus grand que 2, bon, c'est vrai. Mais ce n'est pas au-dessus de mes forces, ça va. J'ai été témoin d'un vol, je raconte ce qui s'est passé parce que j'ai tout vu. Donc pas de difficulté. Et je dirais vrai, je penserais, je dirais vrai, si ce que je raconte est bien exactement conforme à ce qui s'est passé. Bien sûr, j'étais témoin, mais il faut vraiment que je raconte exactement ce qui s'est passé pour que mon témoignage soit vrai. Ça, ce sont deux sortes de vérités que je peux connaître par moi-même. Bon, il y en a d'autres, bien sûr, mais... Et il y a des vérités que je ne peux pas connaître par moi-même. Je dois les apprendre d'un autre. Parce que moi-même, je ne peux pas. Donc, je dois apprendre ces vérités-là d'un autre. Je reprends l'exemple du témoignage, mais c'est toutes les vérités historiques. Hein, toute l'histoire, c'est par témoignage, bien sûr, d'un autre. L'actualité aussi avec les médias. Et nous savons ce que nous pouvons en penser. Alors, je donne un exemple, donc apprendre quelque chose d'un autre, un exemple qui va m'aider à vous faire comprendre le motif de la foi. Donc, M. Dupont, ou un autre nom si vous voulez, a vu un accident de la route. Il me raconte tout ce qui s'est passé avec tous les détails. Puis-je faire foi à ce qu'il me dit, faire confiance à ce qu'il me dit, de sorte que ce qu'il me dit soit vraiment la vérité? Quels vont être les critères pour que je sois certain que ce qu'il me dit, c'est la vérité? Ça va dépendre de la personne qui me raconte, de ce monsieur Dupont. Puis-je me fier à lui? Alors, ce monsieur Dupont est gendarme. Alors, les gendarmes ont la qualité d'être bon observateur, c'est leur métier pour ce genre de choses. Donc, je me dis, il est gendarme, il observe bien, donc, de ce côté-là, pas de problème. Il ne se trompe pas. D'un autre côté, je connais ce monsieur Dupont, c'est un honnête homme, droit, pas capable de mentir. Pas capable de me mentir, donc il ne va pas me tromper. Donc il a les qualités pour ne pas se tromper dans l'observation des faits et leur transmission, leur histoire. Il ne se trompe pas pour raconter les faits. Et en même temps, je sais que c'est un honnête homme bien droit, il ne va pas me mentir. Donc, il ne se trompe pas et il ne me trompe pas. Donc, j'ai les deux critères pour me dire ce qu'il dit, c'est vrai. C'est la qualité de la personne, la valeur de son témoignage qui va déterminer ma confiance ou non en ce qu'il dit, est-ce vrai ou pas vrai. Donc, il ne se trompe pas, il ne me trompe pas, donc ce qu'il dit est pareil à ce qui s'est passé. Il ne se trompe pas, il ne me trompe pas, donc ce qu'il dit est pareil à ce qui s'est passé, donc ce qu'il dit est vrai. La qualité du témoin. Donc je le crois, et je le crois parce qu'il ne se trompe pas et qu'il ne me trompe pas. Et vous avez le motif de la foi. Dieu parle, Dieu ne peut pas se tromper, bien sûr, il ne peut pas me tromper, et cela d'une manière absolue, parce que mon gendarme, j'y mets quand même un bémol, quand même une certaine réserve, bien sûr. Mais quand c'est Dieu qui parle, c'est absolu, il ne peut ni me tromper, ni se tromper, ni me tromper, et c'est absolu. Il suffit que je sache qu'il est parlé, c'est tout. C'est l'Église qui me transmet la parole de Dieu, qui me l'enseigne. Donc il suffit que je sache qu'il est vraiment parlé, la révélation. Et je sais que Dieu a parlé parce qu'il y a eu les miracles qui ont accompagné la révélation, les miracles, les prophéties. Donc je sais que Dieu est bien intervenu, donc il a parlé par les prophètes et par Jésus-Christ. Et puis sa parole est arrivée jusqu'à moi par l'Église, qui est l'organe voulu par Jésus-Christ pour me transmettre la vérité. C'est encore dans l'Évangile, bien sûr. Donc j'ai toutes les garanties que la parole de Dieu m'arrive et que cette parole de Dieu est absolument vraie. Donc, la foi est un absolu en Dieu, en la vérité que Dieu m'enseigne. Mais il est évident que ce que Dieu m'enseigne, je n'ai pas vu, je ne sais pas, je ne comprends pas, ça me dépasse, je ne suis pas le témoin. Et comme je vous l'ai dit, Jésus-Christ, lui, est le témoin parce qu'il a vu. que nous savons, nous l'avons vu. Donc je crois tout ce que Dieu m'a révélé et qu'il m'enseigne par l'Église, je le crois parce que Dieu ne peut ni se tromper, ni me tromper. Pardon. Or, ce qu'il dit est vrai, ça veut dire quoi? Que ce qu'il dit est pareil à la réalité. Donc quand Jésus-Christ me parle de la Sainte Trinité, il me dit les choses comme elles sont. Il me dit Dieu comme il est. Donc Dieu, c'est un en trois. Et si le musulman dit non, il y a un seul Dieu, mais il n'y a ni Fils ni Saint-Esprit, eh bien ils ne disent pas Dieu comme il est. Donc ils sont dans l'erreur. Donc ils n'ont pas le vrai Dieu. C'est tout. Et c'est terminé. Le musulman, c'est faux. Ça suffit pour dire que c'est faux. En plus, il nie la divinité de Jésus-Christ, bien sûr, mais il nie la divinité de Jésus-Christ parce qu'il n'y a pas de fils en Dieu pour eux. Alors nous disons, c'est Dieu le fils fait homme. Il n'y a pas de fils. Pour eux, c'est une horreur. Donc ils sont dans l'erreur parce qu'ils ne pensent pas, ils ne disent pas Dieu comme il est. Alors que nous pensons et nous disons Dieu comme il est parce que Jésus-Christ, qui lui l'a vu, nous l'enseigne. Et que Jésus-Christ étant Dieu, il peut ni se tromper, ni nous tromper. C'est qu'on revient sans cesse à Jésus-Christ qui est Dieu. Vous l'avez entendu, Monseigneur Lefebvre l'a dit, si on nie la divinité de Jésus-Christ, c'est terminé, tout s'en va. Et on le voit, j'en parlais avec quelqu'un tout à l'heure, beaucoup de catholiques mettent toutes les religions à égalité. Sur le même plan, aujourd'hui, c'est fréquent, c'est une opinion, c'est une chose. Pourquoi? À cause d'Assise et de cet de faux œcuménisme qui met la vérité et l'erreur à égalité, donc les représentants, le représentant de la vraie religion avec les fausses religions, on met à égalité. Donc on met la vérité et l'erreur à égalité, tout est affaire d'opinion, mais il n'y a plus de vérité. Quand c'est comme ça, la foi est détruite. Ce n'est pas une opinion, la foi. Ça oblige l'intelligence à recevoir ce que Dieu enseigne. Ce n'est pas une opinion. Alors, c'est le grand mal actuel, et pour guérir cet esprit, je pense que c'est assez difficile. Mais il faut arriver à faire comprendre aux personnes ce qu'est la vérité par des exemples simples, comme je vous l'ai fait, des choses un peu bêtes, mais pour arriver à des notions, à réapprendre aux gens ce que c'est la vérité, bien, il faut bien des choses simples. Que vous-même, vous pouvez inventer des exemples, ce n'est pas difficile, mais il faut arriver à cela. Il faut réapprendre ce qu'est la vérité. Si l'esprit n'est pas persuadé qu'il y a une vérité, mais que tout est affaire d'opinion, la foi est impossible. Donc le salut de cette âme est impossible. Il faut bien nous dire ça. Hein. Sauf grâce spéciale qui va dans l'intelligence pour lui dire « Non, non, il y a une vérité et il y a une erreur, et il faut s'attacher à la vérité et rejeter l'erreur. » Ce serait une grâce tout à fait spéciale, très particulière, mais c'est à nous aussi de travailler cela, hein, sur les personnes que nous rencontrons, puis nous-mêmes nous préserver de ce mal de l'indifférentisme qui met la vérité et l'erreur à égalité parce qu'elle détruit la foi. Et les papes ont condamné cela depuis longtemps, bien sûr. C'est un danger qui nous menace, hein, faut bien voir. Donc je crois fermement toutes les vérités que nous avez révélées, que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Donc l'objet de la foi, eh bien, c'est croire d'abord en Dieu, croire en Jésus-Christ, c'est tout le credo, le « je crois en Dieu », bien sûr. Il y a aussi le mystère de la foi, qui les résume tous, et qu'est l'Eucharistie. C'est bien dans les paroles de la consécration, mysterium fidei, mystère de foi, et c'est vrai, réfléchissons deux minutes, un morceau de pain, quelques paroles, et nous disons, ce n'est plus du pain. Ben, avouez que quand même, humainement parlant, c'est fou. Et pourtant, c'est extraordinaire. Savant que le prêtre a dit ces paroles, que Jésus-Christ a donné au prêtre le pouvoir de transformer le pain en son corps, et quand ces paroles sont dites, nous croyons que ce n'est plus du pain, mais le corps de Jésus-Christ, donc Jésus tout entier. Il n'y a que la foi. C'est vraiment la foi toute pure. Du point de vue de la sensibilité, de nos cinq sens, de notre imagination, rien du tout. La foi pure, toute seule. Dieu a dit, c'est terminé. Jésus a dit, puis voilà. C'est le mystère. C'est là où nous rendons compte que la foi est un grand don. Ah oui. Ça, c'est... Dans ce domaine, cela arrive. Et je crois que c'est Saint Vincent de Paul qui a eu des tentations sur le mystère de l'Eucharistie. Pendant un certain temps, il a cherché à prouver, à lire tous les livres de théologie sur le sujet pour essayer de se prouver, de se convaincre que c'est vraiment ça. Puis comme il voyait que ça ne faisait rien, que ça ne faisait qu'aggraver ses doutes, mais il a pris un papier, puis il a exposé le dogme de foi à l'Eucharistie, puis à chaque fois qu'il avait un doute, il mettait sa main ici. Il a mis le papier ici. Chaque fois qu'il avait un doute, il mettait sa main là. Je crois, puis c'est terminé. C'est ce qu'il faut faire, hein, parfois. Ça peut être une épreuve que le bon Dieu permet pour purifier et augmenter notre foi. Lorsque la foi rencontre des obstacles et que quand même on s'accroche, eh bien notre foi augmente. Par la grâce de Dieu, elle augmente. Et cette foi est nécessaire pour être sauvé. Notre Seigneur le dit dans l'Évangile, hein, plusieurs reprises. Vous l'avez dans Saint Marc, mais vous l'avez aussi dans Saint Jean. Saint Marc, chapitre 16, verset 16, c'est facile à retenir, 16-16. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et dans Saint Jean, vous l'avez. Pareil. Celui qui ne croit pas est condamné. La foi est absolument nécessaire. Et vous connaissez tous les miracles qu'a fait notre Seigneur. Et il fait ces miracles avec la condition de la foi. Ta foi t'a sauvé. C'est quelque chose qui revient sans arrêt dans les évangiles. Et c'est notre baptême. Que demandez-vous à l'Église? La foi. Pourquoi demandez-vous la foi? Pour la vie éternelle. La foi est la racine qui conduit à la vie éternelle. Et nous l'avons dans plusieurs reprises dans les évangiles, Saint Jean surtout. Dieu a donné son Fils unique afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Saint Jean, chapitre 3. Vous avez la même chose dans Saint Jean chapitre 11, et puis vous l'avez dans l'épître de la messe des défunts, le jour de l'inhumation. Et c'est un gage de la résurrection. C'est la volonté de mon Père, dit notre Seigneur, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Donc la foi nous conduit à la vie éternelle et à la résurrection. Bon, pas la foi toute seule, il faut qu'elle soit accompagnée de l'espérance et de la charité. La foi sans la charité, donc avec le péché mortel, ce qu'on appelle la foi morte. C'est Saint Jacques qui en parle, et la foi morte, la foi sans les œuvres, ne conduit pas au ciel. Il faut la foi vive, la foi vivifiée par la charité, donc accompagnée des bonnes œuvres pour obtenir la vie éternelle. Cette foi doit être efficace. Elle devrait, en tous les cas, plus. Notre Seigneur dit, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Notre Seigneur fait des miracles. Et il dit encore, dans Saint Matthieu, chapitre 17, en vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne, passe d'ici à là, et elle y passerait. Et rien ne vous serait impossible. Et il y a un saint, Saint Grégoire le Thaumaturge, qui avait cette foi-là. Il fallait construire une église à tel endroit et il y a une montagne qui gênait. Alors il a prié, puis la montagne s'est déplacée. C'est authentique. Si t'as la foi comme un grain de sénevé, donc il en avait un petit peu, et puis il a prié, et puis ça s'est déplacé, c'est tout. C'est nous que nous l'avons pas assez. C'est l'évangile, hein. Dans Saint Marc au chapitre 11, si quelqu'un ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit que tout ce qu'il dit arrivera, il le verra s'accomplir. Nous manquons de foi en la bonté et en la puissance de Dieu. Et cette foi doit nous mettre dans le bonheur. Il y a des belles paroles de notre Seigneur. Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Celui qui croit en moi, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Donc celui qui croit en moi, c'est-à-dire à la foi accompagnée de la charité, des fleuves d'eau vive qui couleront de lui, c'est les fleuves de la grâce, bien sûr. L'eau est le symbole de la grâce. Il peut y avoir des péchés contre la foi. Il faut faire attention tout de même. Vous avez le doute, douter d'une vérité révélée, mais douter volontairement. Non, ça, c'est pas possible, j'y crois pas. L'Immaculée Conception, non, c'est pas possible, ça, c'est du baratin. La virginité perpétuelle à la Sainte Vierge, ça, non, j'y crois pas. Ben, vous perdez la foi si vous niez, si vous doutez et niez ces vérités. Hein, parce qu'elles sont révélées, elles sont enseignées comme de foi par l'Église. La virginité perpétuelle à la Sainte Vierge et bien sûr l'Immaculée Conception. Je pense à ça parce que je pense à ceux qui disent actuellement que Jésus-Christ avait des frères et des sœurs. Donc, depuis longtemps. Saint Justin, martyr en 155, a écrit une apologie, une défense de la foi contre un juif, et il disait, c'est vous les juifs qui avez inventé ces fables, de dire que Jésus avait des frères et des sœurs. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Mais c'est nier une vérité de foi, hein, si on dit cela. Donc douter volontairement de quelque chose. Un acte volontaire, un refus. Non pas un doute passager, une espèce d'incertitude passagère qu'il faut rejeter tout de suite, bien sûr. Négliger de s'instruire. Notre foi sera profonde, ferme, parce que nous nous instruisons. S'instruire de la foi est nécessaire. Les vérités de la foi est nécessaire. Combien de gens, dans la crise de l'Église, ont été emportés par la tourmente parce qu'ils ne savaient rien? On apprend le catéchisme, on s'arrête à 10, 12 ans, et après on ne fait plus rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'il reste? On oublie. Même si on a appris les choses correctement, et même si on a une bonne mémoire, comme ça m'est arrivé avec un vieux monsieur de 80 ans qui m'a récité, je posais la question, qu'est-ce que l'Eucharistie? L'Eucharistie, c'est... Puis, toute la réponse du catéchisme. Bon, c'est des cas rares. Bien sûr. Mais il faut apprendre, il faut revoir. Ce qu'on ne revoit pas, on l'oublie. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ben, je prends souvent cette comparaison. Il faut connaître certaines choses par cœur. Voilà. La Sainte Trinité, l'incarnation, la rédemption, ce qu'est un sacrement, enfin, toutes ces choses-là, il faut connaître par cœur. Donc, si on vous pose la question, qu'est-ce que l'Eucharistie? Ben, vous devez répondre tout de suite. Je n'essaye pas. C'est indispensable. Pourquoi? Connaître par cœur les vérités de la foi, cette connaissance par cœur et précise, c'est comme avoir devant nous des lampadaires qui éclairent dans la nuit et dans le brouillard. Les vérités de la foi sont comme des lampadaires qui éclairent dans la nuit et dans le brouillard et qui nous permettent d'avancer sur le chemin du ciel. Quand vous ne connaissez pas par cœur, vous avez des idées floues, et dans les idées floues, ben c'est le brouillard et on ne voit rien. Et c'est comme ça qu'on perd le chemin du ciel. C'est comme ça que beaucoup ont perdu, parce qu'ils n'avaient pas la connaissance requise selon leur capacité. Bien sûr, connaissance requise selon ses capacités. C'est ça qu'il faut apprendre. Je me souviens d'un supérieur d'ordre religieux qui prenait le catéchisme de Saint-Pédis et tous les jours qu'on lisait une page, avec l'intention de savoir par cœur. C'est ça qu'il faut faire. Il faut s'instruire, il faut inscrire plus que ça, enfoncer en profondeur dans notre âme les vérités de la foi. Parce que cette foi, il faut la cultiver. Et on la cultive, bien sûr, par la prière, parce que quand on prie, on fait des actes de foi. Quand on va à la messe et qu'on croit à la présence réelle, c'est un acte de foi, bien sûr. Mais aussi par l'instruction, en reconnaissant bien notre catéchisme et l'explication du catéchisme. Et puis, nous pouvons pécher contre la foi, troisièmement, en mettant notre foi en péril. Les lectures, les fréquentations. Bien sûr, hein, il y a des dangers. Il y a des dangers qui ne sont pas tout petits. On se croit très fort, on va dans tel milieu, on dit je vais les convertir, je vais les convertir, puis c'est eux qui vous convertissent. Il faut demander cette foi tous les jours, cette augmentation de la foi. Les apôtres le faisaient, Seigneur, augmentez en nous la foi. Seigneur, augmentez en nous la foi. Voilà pour à peu près la foi, donc je crois fermement, la fermeté, la solidité, toutes les vérités que vous nous avez révélées, donc fait connaître alors que nous ne pouvions pas les connaître par nous-mêmes, et que vous nous enseignez par l'Église, c'est l'organe de transmission, et je crois parce que Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Ensuite, l'espérance. Bon, espérer, qu'est-ce que c'est si on prend au sens naturel? C'est attendre de quelqu'un une chose bonne dont nous avons besoin, parce que ce quelqu'un est bon et puissant. Il faut qu'il y ait un motif, hein, bien sûr, même au naturel. Donc attendre de quelqu'un une chose bonne, parce que ce quelqu'un est bon et puissant. Alors, je vous donne un exemple. Et nous allons ensuite transposer dans la vertu surnaturelle d'espérance. Une personne est accidentée en montagne. Elle lance donc un signal de détresse. Elle espère. Donc ce signal va être vu. Et surtout, elle espère quoi? Le secours. Elle attend du secours, la chose bonne, et elle l'attend de quelqu'un. Et pourquoi elle attend de quelqu'un? Ben, elle sait qu'il y a des hommes bons et dévoués à porter secours, les équipes de secours en montagne, et elle sait qu'ils ont des moyens puissants pour secourir, surtout aujourd'hui. Moyens puissants pour rechercher et ensuite pour porter secours. Donc, cette personne accidentée attend une chose bonne, le secours. Elle l'attend de quelqu'un, et pourquoi elle l'attend? Parce que de ces personnes-là, elle sait que ces personnes, elles sont bonnes et dévouées à porter secours, et elle sait qu'elles ont les moyens puissants pour secourir. Oui, c'est simple. Ben, transposons dans l'ordre surnaturel. Qu'est-ce que nous attendons de Dieu? Ben, nous attendons de Dieu, nous espérons de Dieu deux choses. Pour notre salut éternel. Nous voulons faire notre salut éternel, nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes, c'est impossible. Nous ne pouvons pas nous sauver par nous-mêmes, nous avons besoin d'être sauvés par un autre, comme l'accidenté. Le péché, c'est pire que l'accident en montagne. Bien, nous espérons les secours de la grâce. Notre Sauveur, le Sauveur, bon et compatissant, et qui a les moyens puissants de nous secourir, ben c'est Jésus-Christ. C'est le Sauveur. Donc nous attendons deux choses bonnes, les secours de la grâce, et nous attendons aussi le bonheur du ciel. Voilà deux choses que nous attendons, le secours de la grâce et le bonheur du ciel, et nous les attendons parce que il y a des motifs. Nous savons que Dieu est bon et puissant. Dieu est bon, donc il va nous porter secours. Et il est puissant, donc son secours sera efficace. C'est ça, hein, la vertu surnaturelle d'espérance. Je sais que Dieu est bon. Il me le dit dans l'Écriture. Dieu porte secours à ceux qui espèrent en lui, qui l'attendent. Dieu est bon. Il veut notre salut éternel. La preuve qu'il le veut, il a donné son Fils unique mourant sur la croix. On ne peut pas donner une plus grande preuve qu'il veut notre salut. Il n'aurait pas fait tout ça s'il ne voulait pas nous sauver. Il nous a donné Jésus mort sur la croix. Donc je suis sûr qu'il veut mon salut, qu'il est bon, qu'il veut me sauver. Puis comme d'autre part, il est tout puissant, ben ça va bien, je suis tranquille. Il est bon et il est puissant. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Il n'y a pas mieux. Donc l'espérance chrétienne est un absolu. De plus, je sais que Jésus est mort sur la croix, c'est lui mon sauveur, il est mort pour moi, pour me sauver. Donc en lui, j'ai toute confiance, toute espérance. Puis Dieu a promis a fait des promesses. Oui, si vous faites ça, ben, je vous récompenserai par le bonheur éternel. Vous voyez, ces motifs d'espérance, Dieu est bon, Dieu est puissant, Dieu a promis la récompense du bonheur éternel. Nous pouvons vouloir cette récompense. Hein, ce n'est pas mal, c'est une vertu d'espérer cette récompense. C'est une vertu surnaturelle. Et parfois se dire, oui, bah, si je fais ci et ça, bah, après je serai dans le bonheur éternel. Bah, ça réconforte, ça encourage. Et le bon Dieu en a voulu en faire une vertu. Vous voyez, il faut bien voir ça, c'est une vertu surnaturelle. Puis nous avons Jésus qui nous a mérité tous ses secours par sa croix. Voilà les quatre motifs, si vous voulez. Dieu est bon, Dieu est puissant, Dieu a promis, puis Dieu a mérité sur la croix pour nous. Voilà les quatre motifs d'espérance. Ah, c'est extraordinaire quand nous voyons tout ce que le bon Dieu a fait pour nous. Mais bon, je crois que c'est l'Écriture qui dit quelque part, si vous êtes saint Paul, un homme en ferait-il autant pour un autre, pour un ami ? Alors, si le bon Dieu nous a tant aimés, nous devons avoir toute confiance, toute espérance en lui. Alors, bien sûr, il y a une condition, c'est qu'il faut correspondre à la grâce du bon Dieu. Quand nous disons l'acte d'espérance, il y a un petit « si » quelque part, quand même. « Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance votre grâce en ce monde, et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre. » Bien sûr, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Il y a un minimum. Il faut correspondre à la grâce du bon Dieu qui nous pousse à l'observation des commandements. Il faut correspondre à cette grâce, il faut dire oui à la volonté du bon Dieu. Alors là, pas d'inquiétude, du moment que nous faisons ce qui plaît à Dieu, nous faisons sa volonté, ou parfois un peu qu'un cas, c'est entendu, mais enfin, nous avons confiance à la miséricorde du bon Dieu. Nous n'avons pas alors à nous inquiéter. Et voyez, cette espérance est importante. Elle est un motif puissant de conversion. Le père Emmanuel, qui était le curé de Ménil-Saint-Loup, au siècle dernier, avait eu cette inspiration de faire cette prière à la Sainte Vierge, Notre-Dame de la Sainte Espérance, convertissez-nous. Et ça a été approuvé par le pape Pie IX. Et lui-même ou ses disciples ont écrit, ont expliqué pourquoi l'espérance nous convertit et pourquoi par la Sainte Vierge. Pourquoi l'espérance nous convertit ? Ben, qu'est-ce qu'espèrent les hommes du monde ? Un bonheur dans les plaisirs terrestres. C'est ça qui les retient, qui les tient. Les plaisirs terrestres. Voilà toute leur espérance. Boire, manger, puis s'amuser, hein, ce qu'on disait à l'époque romaine, des jeux et des cirques. Enfin, du pain et des jeux, pardon. Panem et circenses. Le pain et le cirque, et les jeux du cirque. Voilà, on satisfait à tous les plaisirs, tout le désir de plaisir et de bonheur qu'on trouve dans ces plaisirs bas et terrestres. L'homme a soif de bonheur. Il faut lui donner le vrai, il faut lui promettre le vrai. Et le vrai, c'est l'espérance qui nous le donne. Le vrai bonheur, c'est le ciel, c'est d'être avec Dieu au ciel. C'est de voir Dieu et d'aimer Dieu. Voilà notre vrai bonheur, qui nous donnera un vrai plaisir, mais un plaisir surnaturel, spirituel et surnaturel, et qui est vraiment conforme, qui est la joie de Dieu. Hein. Tout simplement, c'est entrer dans la joie de Dieu, comme il est dit dans une des paraboles de notre Seigneur, entre dans le bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Donc, cette espérance nous convertit, parce qu'elle va nous faire espérer un bonheur dans un bien plus grand. Alors, cette espérance va être assez puissante pour nous arracher au plaisir, au bonheur qu'on peut trouver dans les plaisirs terrestres. Ben oui, on dit ces plaisirs-là, ce bonheur dans ces plaisirs-là, ça vaut rien, c'est minable. Alors que j'ai un bonheur extraordinaire qui m'attend. Or, le reste, ces plaisirs minables, bah, dehors, puis je recherche Dieu, le bonheur en Dieu. Et c'est une espérance qui nous arrache et nous transporte en Dieu. C'est une vertu. Donc, désirer le bonheur n'est pas anti-chrétien. Hein. Nous ne sommes pas des gens un peu bizarres. qui sont incapables d'être heureux et, ou qui ne savent pas pleurer, inversement. Ils sont capables d'être dans la joie au milieu des pleurs. Donc voilà pour l'espérance qui nous fait espérer de Dieu les secours de la grâce et le bonheur du ciel, si bien sûr nous observons les commandements, si nous faisons la volonté de Dieu. Ensuite, la charité. Alors, nous en avons entendu un petit peu parler tout à l'heure. Donc, dans la charité, dans l'amour, il y a deux choses. Oh oui, j'ai oublié sur l'espérance, il y a deux péchés opposés à l'espérance. Il y a le désespoir, c'est Judas. Judas n'espère pas en la miséricorde de Dieu. Et Judas a eu tort. Le péché de Judas, ce n'est pas d'avoir fait crucifier Jésus-Christ. Hein. Son péché, c'est d'avoir désespéré la miséricorde. Il n'a pas pensé que pouvoir être pardonné. Mais c'est ce désespoir, c'est ça qui ne va pas. Jésus lui aurait pardonné. En plus, Jésus a tout fait pour lui susciter en lui cette espérance. Quand il arrive au jardin des Oliviers et que Judas est là pour le livrer avec tous les soldats, notre Seigneur lui dit, « Mon ami, que fais-tu là ?» Donc, il lui l'encourage, « Mon ami ?» Notre Seigneur savait, hein, puisqu'il sait tout. Donc, il savait tout ce qui s'était passé, il savait ce qu'il y avait dans le cœur de Judas. « Mon ami, il l'appelle comme ça. Vous essayez de toucher ce cœur endurci. Que fais-tu là ?» Il le fait réfléchir. Donc, Judas avait là la grâce de se convertir, d'espérer en la miséricorde. Avec tant de bonté et de douceur, surtout quand notre Seigneur devant nous, tout de même, c'est... Donc ça, c'est le désespoir. Et l'autre péché opposé, c'est la présomption, c'est Saint-Pierre. Saint-Pierre qui dit, oui, Seigneur, je vous suivrai jusqu'à la mort ou jusqu'à la prison avec vous. J'irai jusqu'à vous. Et notre Seigneur dit, non, non, tu vas me renier trois fois avant que le coq chante deux fois. Et Saint-Pierre dit, non, non, j'irai jusqu'au bout avec vous. Non, non, c'est pas vrai. La présomption de Saint-Pierre, Saint-Pierre a compté que sur ses forces. Et ne s'appuyant que sur ses forces, il est tombé. Il a renié Jésus-Christ. Donc, ne nous appuyons pas sur nous-mêmes. Ne pensons pas faire des progrès si ne nous appuyons pas sur la grâce de Dieu. Jésus a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il n'a pas dit, « Sans moi, vous ne pouvez presque rien. » Il a dit, « Rien. » Ensuite, donc, la charité. La charité est un absolu parce qu'il faut préférer Dieu à tout le reste. Donc, aimer, c'est préférer telle personne à toutes les autres parce qu'elle est meilleure. Et c'est aussi faire ou souhaiter du bien à quelqu'un. Donc, nous appliquons ça à Dieu, préférer telle personne à toutes les autres. Eh bien, j'aime Dieu, ça veut dire je préfère Dieu à tout le reste. Et je préfère Dieu à mon fiancé ou à ma fiancée. Donc, si ma fiancée ou ma fiancée risque de m'éloigner de Dieu, de m'éloigner de la foi, je choisis Dieu. Et je laisse de côté la fiancée ou le fiancé. Je préfère Dieu à tout le reste, car Dieu est infiniment bon et parfait. Infiniment bon et parfait, donc infiniment meilleur que tout le reste. Infiniment meilleur que toutes les créatures, que tout. Et c'est extraordinaire. Hein? Je lui obéis parce que c'est lui le bien souverain, le bien parfait. Ensuite, je préfère Dieu à tout le reste parce que Dieu est mon bienfaiteur. Dieu me fait du bien. Alors, du bien au naturel, bien sûr. Il est mon créateur, il est celui qui me fait vivre. Mais il me fait du bien surtout au surnaturel. Bien sûr, bienfaiteur parce qu'il m'a sauvé de la damnation éternelle. En Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Je suis sauvé de la damnation éternelle. C'est l'initiative de Dieu, mon salut. C'est Dieu qui a eu l'initiative de me sauver. Si Dieu n'avait pas eu l'initiative, n'avait pas voulu, je ne serais pas sauvé. Dieu me fait beaucoup de bien, bienfaiteur. Et puis Dieu m'a commandé de l'aimer. Je vous donne un commandement, dit Jésus, si vous aimez Dieu et que vous aimiez votre prochain. C'est un commandement, bien sûr, nous n'aimons pas Dieu simplement parce que c'est commandé, mais parce que c'est Dieu. Le motif d'aimer Dieu, c'est Dieu. L'amour de Dieu veut nous faire rechercher la gloire de notre Seigneur. Et comme disait Monseigneur Lefebvre tout à l'heure, quand nous voyons Dieu, Jésus-Christ, qui est méprisé, bafoué, rejeté, combattu aujourd'hui un peu de tous les côtés, nous devons souffrir. Celui que nous aimons est méprisé, rejeté. Prenez un enfant avec son père ou sa mère et qu'il y a quelqu'un qui passe dans la rue qui insulte le père ou la mère, l'enfant va réagir tout de suite. Il va prendre la défense. C'est normal. Et nous alors, pour Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Sauveur, nous devrions réagir, si nous l'aimons vraiment, nous devrions réagir. Et si l'enfant ne peut pas faire autre chose que d'aller embrasser son père ou sa mère pour lui montrer que lui au moins, il les aime, la consolation, la réparation offerte, parfois il ne pourra pas faire autre chose, bien sûr, nous aussi faisons la même chose. Témoignons à Dieu notre amour pour réparer, pour consoler, et c'est tout. La spiritualité de François de Fatima, le petit garçon de Fatima qui ne fait que des sacrifices par amour pour consoler Jésus qui n'est pas aimé. C'est l'amour pur, l'amour pour Dieu. Même Dieu pour lui-même, et quand il n'est pas aimé, on est triste. Et on essaye de réparer, de consoler, de compenser, avec notre petitesse bien sûr, peu importe, de compenser ce qui n'est pas fait. C'est tout le sens de l'adoration réparatrice, de l'heure sainte, du jeudi soir, le sens de la communion réparatrice du vendredi, de la dévotion réparatrice des premiers samedis. C'est l'amour qui veut offrir quelque chose pour réparer les injures qui sont faites à celui que nous aimons et qui mérite d'être aimé par-dessus tout. Donc, la charité est un choix. Je préfère Dieu à tout le reste. Donc, c'est un choix. Et un choix, ça suppose qu'on prend telle chose et qu'on rejette les autres. D'où le sacrifice. Comme disait Mgr Lefebvre tout à l'heure, dans le sacrifice, on fait un choix et on renonce au reste. Le renoncement est dans la charité. Parce qu'on choisit. Je préfère, donc je choisis. Si je choisis telle chose, je ne choisis pas les autres. C'est un choix. Donc je renonce aux autres. Donc le renoncement est inclus dans la charité. Il faut faire un choix. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment la volonté. Ce n'est pas du sentiment, c'est la volonté qui choisit, qui prend les résolutions en fonction de ça. C'est un choix parfois douloureux, par exemple pour des adolescents, je sais que tel enfant allait avec tel garçon... tel copain ou copine, etc., c'est pour moi un danger, eh bien, je dois faire le choix, dire non à ces enfants-là, à ces copains-là. Eh bien, pour un garçon, pour un adolescent, c'est un choix douloureux, difficile à faire, et qu'il l'a fait, ça montre qu'il y a une certaine solidité, mais qui est nécessaire, parce que on trouve parfois des choses... Et comme Dieu est infiniment bon, c'est un engagement absolu, c'est tout pour Dieu. C'est mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et par-dessus toute chose. Donc de tout moi-même et par-dessus tout. Et le par-dessus tout, c'est le choix, le renoncement. Et de tout mon cœur, j'y mets tout moi-même, toute mon énergie. Vous me direz, ouf, on n'y est pas encore. Oui, mais vous savez, Saint Bernard vous dira, la mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure. La mesure d'aimer Dieu, donc la quantité qu'on peut donner à Dieu, la quantité d'amour qu'on peut donner à Dieu, elle est sans limite, parce qu'on peut toujours aimer Dieu le lendemain plus que le jour précédent. La mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure, sans limite, sans petitesse. Donc ça, c'est aimer Dieu. Donc préférer Dieu à toute chose, et puis aussi rechercher la gloire de Dieu, que le règne de Jésus-Christ, bien sûr, tout ça est inclus dedans. Et ensuite, aimer notre prochain, bien, c'est lui faire ou lui désirer du bien. Aimer le prochain, c'est lui faire ou lui désirer du bien. Là encore, ce n'est pas seulement un sentiment. Bien sûr, on peut avoir de bons sentiments pour quelqu'un, mais attention, la charité n'est pas un sentiment. Je lui fais ou je lui désire du bien. Alors pourquoi ? Parce que Dieu me l'ordonne. C'est Dieu qui me le commande. Parce que Dieu veut faire du bien à toutes les âmes. Alors comme j'aime Dieu, ben je fais ce qui plaît à Dieu. Tout simplement. J'aime Dieu, ben je suis empressé à faire ce qui lui plaît. Et comme il lui plaît de sauver toutes les âmes, de les conduire au ciel, ben je veux la même chose. J'ai le même désir, la même inclination de la volonté. Dieu me l'ordonne. Ensuite, l'autre motif, c'est que tous les hommes sont créés à l'image de Dieu et tous les hommes sont rachetés par le sang de Jésus-Christ. Devant toute personne, nous pouvons nous dire, cette personne vaut, a pour valeur le sang de Jésus-Christ. Alors, est-ce qu'il en a tiré ? Est-ce que le sang de Jésus-Christ a été utile pour lui ou non ? Jésus qui l'a aimé, qui a versé son sang pour lui, est-ce que ça va être en vain ? Si j'aime Jésus, est-ce que je ne vais pas désirer que Jésus qui a versé son sang pour cette personne, mais il ne l'ait pas versé en vain ? Est-ce que je peux faire quelque chose pour qu'il n'ait pas versé son sang en vain, inutilement, pour cette âme-là ? Alors, qu'est-ce que je vais faire pour que cette âme-là puisse recevoir les bienfaits du sang de Jésus et donc satisfaire les désirs du cœur de Jésus qui veut le salut de cette âme ? Donc l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Dieu, va me pousser à dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour que cette âme-là aussi bénéficie des grâces de la rédemption, du sang de Jésus-Christ, parce que cela, je sais que ça plaît à Dieu. Contraire au sentiment d'inimitié qu'on peut avoir envers certaines personnes. Avec la charité, ça passe pas avec l'inimitié qu'on peut avoir envers certaines personnes. Ce n'est pas possible les deux en même temps. Donc, quelles sont les marques de notre charité envers Dieu ? Eh bien, c'est l'accomplissement de sa volonté. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Je vous répète aussi cette phrase que j'ai déjà dite. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là entrera dans le royaume des cieux qui fait la volonté de mon Père. Et celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Saint Jean, chapitre 14. Et au chapitre 15, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Donc vous voyez, notre Seigneur dit, celui qui garde ma parole, c'est-à-dire celui qui garde mes commandements, celui-là, il m'aime. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons en lui, et nous ferons en lui notre demeure. Monseigneur Lefebvre l'expliquait tout à l'heure, mais c'est extraordinaire. Cet amour doit être pour nous une grande consolation. Dieu l'aimera. Celui qui garde ma parole, c'est celui-là qui m'aime, dit Jésus. Donc celui qui observe les commandements de Jésus-Christ, celui-là aime Jésus-Christ. Et Jésus dit, mon Père l'aimera. Et nous viendrons en lui, c'est-à-dire les trois personnes divines, établissent leur demeure dans cette âme. Présence tout à fait spéciale. C'est la grandeur de la charité. De toute façon, avoir la charité dans le cœur, c'est un peu avoir Dieu dans le cœur, puisque Saint Jean, dans sa première épître, dit Dieu est charité. Et que Saint Paul, dans l'épître aux Romains, chapitre 5, dit « La charité de Dieu a été diffusée dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » L'Esprit Saint diffuse la charité dans nos cœurs. Alors, pour l'amour du prochain, comment devons-nous l'aimer ? À un endroit, notre Seigneur dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est là les deux commandements dans lesquels sont enfermés toute la loi et les prophètes. Mais il y a un autre endroit, il dit, ça va plus loin. « Ceci est mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. » Pas seulement aimer les autres comme soi-même, mais aimer l'autre comme moi, Jésus-Christ, je les ai aimés. Oui, alors Jésus-Christ, il a aimé les autres jusqu'où ? jusqu'au sacrifice de la croix. Ah, la Saint Jean dit ça là quelque part. Si vous avez ainsi été aimé par Dieu, c'est dans sa première épître, si vous avez ainsi été aimé par Dieu, et bien aimé de même les autres, donnez votre vie pour les autres. Alors, quelques principes sur les règles de la charité. Notre Seigneur dit « Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Car selon que vous aurez jugé, on vous jugera. » Matthieu chapitre 7. Donc là, ne jugez pas veut dire « Ne jugez pas pour condamner. » Parce que quand quelqu'un a fait le mal, bah, on est quand même capable de juger pour savoir si c'est bien ou mal, objectivement. Quelqu'un a volé, bah, il a volé, je ne peux pas dire que c'est bien. Je suis obligé de juger, je juge par conformité ou non au commandement de Dieu. Donc ce que veut dire notre Seigneur, d'après les commentateurs, c'est ne pas juger, il ne faut pas juger pour condamner. Vous voyez ? Écriture dans l'Ancien Testament, les hommes voient le visage, mais Dieu seul connaît le cœur. Les hommes voient l'extérieur, mais Dieu seul connaît le profond du cœur. Donc nous ne pouvons pas condamner la personne. Les actes extérieurs, ben, ils sont ou non conformes à la loi du bon Dieu, ben, ça tout le monde peut le voir et en juger. Mais dans le cœur, non. Et puis en plus, il ne faut pas condamner. Jésus dit quelque part, je ne suis pas venu pour condamner, mais pour sauver. Ben, faisons de même. Et si nous ne jugeons pas dans le but de condamner, mais que nous jugeons, nous voyons les choses dans le but de sauver, alors nous imitons notre Seigneur. Puis n'oublions pas la paille et la poutre. Ça pourra nous aider aussi. Si vous pardonnez, votre Père Céleste vous pardonnera aussi, dit Jésus. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. C'est notre Père que nous disons tous les jours. Inutile. Lorsque tu présentes ton offrande à l'autel, donc quand nous allons à la messe, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, eh bien laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Puis ailleurs, notre Seigneur dit qu'il ne faut pas coucher, il ne faut pas laisser le soleil se coucher sur notre colère. La colère soit terminée avant le soir. Je ne sais plus le passage, je ne me souviens pas. Oh, les apôtres demandent à notre Seigneur combien de fois je dois pardonner. Eh bien, 7 fois, 77 fois, donc toujours, c'est ça que ça veut dire. Et puis, comme l'a dit notre Seigneur, ayons le souci des âmes. Donc il y a toute l'aumône corporelle, faire du bien au corps, etc. Mais il y a surtout l'aumône spirituelle, faire du bien aux âmes. Ayons le souci du salut des âmes. Notre Seigneur a versé son sang pour elles. Même de nos ennemis, il faut prier pour nos ennemis. Notre Seigneur nous le commande. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Et votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, qui est bon aux ingrats et aux méchants. Luc, chapitre 6. Saint-Luc, pardon, chapitre 6. Donc, faire du bien, sauver les âmes, même si ce sont celles de nos ennemis. Monsieur, c'est la perfection de la charité. C'est notre victoire à nous, c'est notre vengeance. Vous voulez vous venger de vos ennemis ? Eh bien, travaillez au salut de leur âme. Voilà, vous aurez une bonne vengeance. Dieu. Il ne faut pas nous étonner nous-mêmes si parfois notre nature humaine est un petit peu, pas révoltée, mais bouleversée, travaillée, tiraillée intérieurement, dans l'angoisse face à la volonté de Dieu à accomplir. Ben, notre Seigneur a été pareil. Mais comme Jésus-Christ, et avec la grâce de Jésus-Christ, il nous faut dire, non pas ma volonté, mais votre volonté. C'est dans la volonté de Dieu qu'on trouve la paix et la force. Et cet amour de Dieu par l'accomplissement de sa volonté a été jusqu'au don total. Au chapitre 10 de Saint Jean, « Mon Père m'aime parce que je donne ma vie, pour la reprendre ensuite, bien sûr, mais je donne ma vie. Personne ne me prend par force cette vie, mais je la donne de moi-même. » Et cet amour de Dieu va jusqu'à donner pour son Père sa propre vie, volontairement. Il le veut, parce que Dieu le veut. Mon Père m'aime parce que je donne ma vie. C'est un don volontaire, par amour, et non pas subi, mais qui est voulu, qui est aimé. Alors de même pour nous, quand Dieu nous demande quelque chose, il faut essayer de ne pas faire une triste figure, il faut essayer de donner volontiers, de bon cœur. Seigneur, vous demandez ça, ben parce que c'est vous. D'accord, je n'ai pas du tout envie, mais c'est vous, alors... Oui, et de bon cœur, il faut le donner. C'est pas toujours facile, c'est vrai, mais peu à peu, il faut y parvenir. Ensuite, l'amour des hommes, et je terminerai par là, parce que c'est dans Saint Jean, chapitre 15, bon, vous connaissez ce passage, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Bien sûr. Et saint Paul traduit ça avec émotion et enthousiasme. Alors que nous étions ses ennemis, il m'a aimé, il s'est livré lui-même pour moi. J'étais son ennemi par le péché, eh bien il m'a aimé, il s'est livré lui-même pour moi. Moi, oui, l'avorton, comme dit saint Paul, le moindre des moindres. Mais il m'a aimé, il s'est livré pour moi. Et chacun de nous doit dire la même chose. Moi, un tel, eh bien il m'a aimé et il s'est livré pour moi. Moi, un tel qui est qu'à tel âge, telle origine, tel caractère, tel défaut, mais il m'a aimé, il s'est livré pour moi. Extraordinaire, c'est la réalité profonde, constante de l'amour de Jésus-Christ dans son humanité et dans sa divinité, bien sûr, pour nous. N'oubliez pas, nous étions ennemis de Dieu par le péché. Et Dieu nous a aimés au point de donner son Fils, mourant sur la croix, et ce Fils nous a aimés dans sa divinité, bien sûr, mais dans son humanité, au point de se livrer lui-même pour nous. Et ce qui résume le plus magnifiquement cet amour de Jésus-Christ pour nous, c'est l'hymne des laudes de la fête Dieu. Alors malheureusement, vous ne trouvez pas ça sur vos missels, mais j'avoue que c'est extraordinaire. Saint Thomas d'Aquin qui a écrit cela, je vous le lis, et si vous voulez, je vous le dicte après, parce que tout est résumé en quatre lignes, enfin quatre strophes, quoi, en quatre lignes d'une strophe. Pardon. En sa naissance, il se donne comme compagnon, au repas sacré de la scène, comme aliment, en sa mort, comme prix de notre salut, régnant au ciel, il se donne en récompense. Tout est dit. En sa naissance, il se donne comme compagnon, il devient l'un de nous par l'incarnation. En sa naissance, il se donne comme compagnon, il devient l'un de nous, l'un de nos amis, notre frère. Jésus dit bien à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Nous sommes fils de Dieu avec le Fils. En sa naissance, il se donne comme compagnon. Au repas sacré de la scène, comme aliment, il est nourriture de nos âmes. Dieu le Fils fait homme, nourriture de nos âmes. Faut-il que nos âmes soient si grandes pour que Dieu seul puisse les nourrir? Au repas sacré comme aliment, en sa mort comme prix de notre salut, en sa mort comme prix de notre salut. Saint Paul n'oublie pas de nous le dire. N'oubliez pas que vous avez la valeur du prix du sang de Dieu. Nous avons été rachetés d'un prix infini, le sang de Dieu. Le sang de Dieu le Fils est homme. En sa mort comme prix de notre salut, régnant au ciel, il se donne en récompense. Régnant au ciel, il se donne en récompense. Alors bien sûr, le texte latin est beaucoup plus concis et mieux dit, mais il faut expliquer un peu en français. Régnant au ciel, il se donne en récompense. Il suffit de méditer cela. C'est toute la vie de notre Seigneur du début à la fin et jusqu'au ciel, la gloire du ciel. Or la croix, la souffrance n'est qu'une étape. Le but, c'est le ciel, n'oubliez pas. Donc ça, c'est l'amour de Jésus pour les hommes, il y a aussi sa miséricorde envers les corps et les âmes. Oh, vous connaissez l'évangile, ses guérisons multiples, ses miracles, tout ça par miséricorde, le pardon des péchés. Notre Seigneur n'a pas de zèle amer et dur, il ne se met pas en colère contre les pécheurs, il n'invective pas, il ne critique pas, il ne dit pas du mal. Mais il veut sauver. C'est Isaïe au chapitre 42. Il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Il ne brisera pas le roseau froissé.